Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
L'été approche, on vous le répète à peu près tous les jours à cette antenne, mais il faut dire qu'on en a tous besoin, partir au large, sortir du bourdonnement de l'actualité et de la pandémie, prendre l'air, souffler, rêver, redécouvrir les petits bonheurs de la vie. Ce pourrait être le label tout simple des artistes de ce matin. Dans le jargon, on appelle ça les artistes du parvis, des hommes et des femmes qui se tiennent comme à l'entrée de nos églises pour tâcher de révéler au plus grand nombre la présence qui se cache dans les affres et les sommets de nos existences. Un monde, celui des artistes chrétiens que je vous propose de découvrir ensemble ce matin. Ces artistes du parvis, c'est donc le thème de l'émission de ce matin. Pour nous en parler, et plus que nous en parler, vous allez le voir, autour du plateau, Pierre Benoît, qui est diacre, docteur en philosophie et auteur d'un ouvrage « Les chrétiens et les musiques actuelles » paru aux éditions des Béatitudes, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Théo Z, vous êtes auteur, compositeur et interprète, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous pouvez peut-être tout de suite présenter votre guitare, puisque vous ne venez qu'on l'entende. Voilà, Théo Z et sa guitare. Voilà. Daniel Pala, vous êtes auteur, compositeur et interprète, et vous êtes venu avec votre piano.
C'est ça, tout à fait.
qu'on entendra tout à l'heure. Alors, on devait commencer avec Pierre Benoît, mais c'est bien. On se disait juste avant l'émission, on va réussir à le joindre, évidemment. Souvent, quand c'est le bazar, comme ça, c'est le bon signe. Ça veut dire que le Saint-Esprit est de la partie. Alors, avant qu'on fasse complètement connaissance avec vous, on imagine que vous avez parmi les gens devant qui vous vous représentez ou à qui vous êtes obligé d'expliquer un peu ce qui vous fait vivre, des questions sur ces fameuses musiques actuelles chrétiennes, puisque c'est un peu le mot jargonneux qu'utilisait donc Pierre Benoît dans le titre de son ouvrage. Derrière ça, en fait, j'ai cru comprendre, on peut mettre une multitude de réalités. Dans son bouquin, on trouve, c'est à la fois des témoignages chrétiens par des spectacles, des musiques actuelles dans la louange, parfois de la paraliturgie, de l'assemblée de prière, ou tout simplement, on va dire, de la musique comme on l'aime. Comment vous présenteriez pour les nuls ou pour le grand public ces musiques, Théo Z, pour commencer?
Oh ben ce sont tout simplement des artistes qui expriment leur foi à travers leur culture et à travers leur identité musicale, en toute simplicité. Et voilà, faut peut-être pas aller chercher plus loin. Un jeune rappeur va chanter l'évangile au rythme du rap. Un métalleux va peut-être hurler sa foi au micro pour ses amis ou son public au son des guitares électriques. Le musicien de musique classique va lui interpréter un cantique, un superbe cantique, voilà, pour exprimer sa louange. Voilà, les choses se font. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et j'espère que c'est ça, la musique chrétienne contemporaine.
Daniel Piala, qu'est-ce que vous diriez, vous? La même chose, mon capitaine, ou pas?
Oui, je dirais que c'est exactement pareil. On est créé chacun avec une identité, avec une façon d'être qui se construit au fur et à mesure de la vie. Et dans notre art, c'est un petit peu ce qu'on exprime. Alors notre cheminement de foi aussi, on l'exprime. Après, avec un désir de s'adresser peut-être à des publics différents, dont on va pas mal parler ce matin. Mais soit pour les chrétiens, pour les encourager, ou aller partager à d'autres personnes qui n'ont pas l'habitude, tout cela au travers de nos musiques et de ce qu'on est, de ce qu'on aime exprimer, tout simplement.
Alors, il y aurait là-dedans un peu deux grandes familles, on va dire les artistes du dedans ou du dehors, probablement qu'on peut aussi y faire des allers-retours. Vous vous présentez donc comme des artistes du parvis, c'est pareil pour ceux qui n'en sont pas familiers. On va commencer avec vous, Daniel Piala. C'est quoi un artiste du parvis? Je disais en introduction, c'est tout simplement des hommes et des femmes qui se tiennent, on va dire, comme sur le parvis, hein, des églises, avec simplicité, en étant eux-mêmes, et qui invitent, quoi, nos contemporains à essayer de découvrir ce qui se cache au cœur de l'existence.
Oui, je pense que c'est tout simplement un désir du cœur aussi. Quelque part, chacun a envie de partager sa foi de manière différente. C'est vrai que ce terme artiste du parvis est parlant, puisque c'est un petit peu le lien entre ce qui se vit à l'intérieur de l'Église, à l'intérieur de nos cœurs, à l'intérieur de notre foi qu'on a envie d'exprimer, et puis de rendre abordable pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, et de faire ce pont entre des univers différents. Après, c'est vrai qu'on a tendance peut-être à enfermer nos arts dans des catégories précises.
C'est pas une bonne idée de vouloir enfermer les artistes, déjà.
Je dirais que non. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je pense qu'on peut, cheminer entre différents lieux. Mais c'est vrai que quelque part, en tout cas en ce qui nous concerne tous les deux, on a quelque chose au fond de nous qui fait qu'on a envie de le partager. C'est pour ça qu'on nous met souvent on partage en disant qu'on est des artistes de Parvis, oui.
C'est ça, on peut être des artistes du Parvis le samedi soir et être des artistes du cœur le dimanche matin et des artistes de la nef, je sais pas moi, le vendredi, c'est pas forcément.
Alors j'ai cru comprendre que c'était quand même, ça paraît simple pour vous, mais on va dire dans une France qui est quand même largement athée, même si elle est de moins en moins, on va dire, anti-chrétienne, c'est aussi le fruit d'un cheminement. Alors puisqu'on aura Pierre Benoît probablement un peu plus tard, on va plonger un petit peu dans vos portraits avant de vous entendre, parce que les artistes parlent d'abord, on va dire, par leur art, que souvent ils préfèrent parler par leur art que par les deux, mais je vous propose ce petit détour. On va commencer avec vous, Théo Zell. Alors il y aurait certainement, on va pas résumer votre vie en 10-15 minutes, hein, mais vous vous présentez d'abord comme un adolescent rêveur et rebelle qui, à vous lire en fait dès les débuts, a trouvé dans la musique quoi, une manière, plus qu'une manière de s'échapper en fait, une raison de vivre.
Oui, vraiment, c'est exactement ça, c'est une raison de vivre. La musique, j'ai envie de dire, était mon dieu. Avec un D minuscule, c'est vraiment le seul but que j'avais dans la vie. Et petit à petit, je mettais les choses en place pour pouvoir atteindre ce but. Et j'y arrivais, mais il y avait quelque chose au fond de moi qui ne me satisfaisait pas.
Ça prenait quelle forme alors ? Donc vous disiez que vous ennuyiez ferme sur les bancs de l'école et que vous passiez plus de temps à chanter ou à faire partie de groupe. Expliquez-nous
oui,
un
ça,
peu si vous revenez en arrière.
J'ai composé mes premières chansons dès que j'ai appris à gratter mes accords à la guitare, quoi. Et j'ai fait ma première scène à 16 ans, c'était au Festival Anarchiste d'Agen. Voilà, donc je naviguais un petit peu dans ce milieu. Après, j'ai fait...
Vous aviez déjà soif de vérité, alors, parce que
oui,
derrière les anarchistes, il y a souvent des gens qui... Il y a des vrais cris, c'est...
Ah oui, complètement. Et il y a des gens très bien, mine de rien. Il y a aussi, il faut pas non plus rentrer dans. Je suis pas anarchiste. Hein. Je crois en Dieu. Il y a également des gens qui ont des valeurs, c'est certain. Et oui, quelque part, ça, je pense que de fréquenter ce milieu-là m'a apporté peut-être un peu de sens à mon existence, mais le vrai sens, j'ai trouvé plus tard, voilà, en rencontrant la foi en Jésus.
Alors vous dites que ça s'est passé dans les années 80, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, partant du principe que il y a plus d'auditeurs qu'on imagine dans nos radios qui sont des gens qui cherchent, voilà, et qui peut-être parfois même pratiquent, sans que pour autant Dieu soit quelqu'un de vivant, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de ce chamboulement, vous nous partagez évidemment ce que vous souhaitez, hein.
Ah ben, en fait c'est bien simple, le jour où j'ai fait ce choix, parce que ça a été un choix que j'ai fait un jour dans ma vie, de suivre Jésus, j'ai instantanément trouvé une joie et une paix qui me manquaient, et pour moi c'était la confirmation que j'étais sur le bon chemin. Et à partir de là, ben, j'ai commencé à grandir avec...
Racontez-nous, le matin, vous aviez l'habitude de vous réveiller.
Ah oui, vous, encore mais, vous connaissez...
vous voyez, j'ai bossé. Hein. Je sais même ce que vous pensiez à l'adolescence. Ils sont forts, ces journalistes.
Mais comment vous faites?
Je vous expliquerai après.
Bon, très bien. Oui, ben, c'est vrai, tous les matins, je me levais et ma première phrase, c'était « encore une journée de foutu ». Voilà, avant même de poser un pied par terre, je commençais la journée. Ma vie n'avait pas de sens quelque part. Et un jour, j'ai fait une démarche avec le Seigneur, et dès le lendemain, j'ai ressenti au fond de moi cette joie et cette paix que ça a été, qui a été pour moi une confirmation que je prenais le bon chemin, quoi. Et ça fait maintenant, je sais pas, 30 ans de ça. Il y a eu des hauts, des bas, voilà, on est des êtres humains comme les autres, hein. Mais malgré tout, j'ai cette assurance que Dieu est à mes côtés. Et c'est vraiment, c'est exceptionnel d'avoir voilà, la présence du Seigneur avec nous, et c'est génial, quoi.
Pour autant, à vous lire aussi, pour quelque chose que j'ai lu ou entendu de vous avant, vous disiez que c'était quand même, après tout un chemin, que d'assumer sa foi, y compris jusque dans son art. Je ne sais pas comment ça s'est fait progressivement aussi, peut-être.
Alors ça, c'est le témoignage que j'avais prévu de dire en troisième partie.
C'est vrai.
Mais
ah
ça bah fait
vous
rien.
Faites ce que vous voulez.
Ouais, bah, de toute façon, c'est parti.
C'est le bordel.
On
c'est
a
bon
dit,
signe.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Donc, puisqu'on y est. Hein.
Et s'il faut oui. pendant un quart d'heure à la fin, il nous fera un concert.
Oui. Mais c'est ça. Au début, quand j'ai commencé à écrire des chansons en solo, j'ai commencé à avoir un répertoire que j'ai divisé en deux. Un répertoire que je jouais dans les contextes grand public et un répertoire que je jouais dans les contextes chrétiens. Voilà, comme s'il y avait deux TOZ, le TOZ païen, on va dire, et le TOZ non chrétien. J'arrivais pas à assumer ma foi en dehors de l'église. Et un jour, il s'est passé cet événement qui a été pour moi un coup de pied aux fesses, je crois, de la part du Seigneur. Hein. Je jouais dans un restaurant dans la banlieue de Bordeaux, et à la fin, je range mes câbles et tout. Il y a un monsieur qui vient me voir et me dit Mais t'es chrétien, toi ? Alors là, je me suis dit, attends, j'ai rien dit, voilà, j'ai commencé à bafouiller n'importe quoi, blablabla. Il me dit, ah, t'es pas chrétien ? C'est dommage parce que je suis programmateur et un chrétien, ça aurait changé. Et là, vraiment, ça a été pour moi un coup de pied aux fesses et j'ai senti vraiment au fond de moi que le Seigneur, que Dieu me demandait désormais, dans les endroits voilà, où il n'est pas présent habituellement, bah, de chanter également ma foi. Et donc j'étais programmé la semaine suivante dans un petit festival où il y avait un groupe de rock, où il y avait plein de jeunes qui faisaient du bruit et tout. J'étais tout seul avec ma guitare hein, en première partie. Et donc la veille j'ai dit à ma femme, écoute, ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il faut que je chante mes chansons chrétiennes également. Elle m'a dit mais t'es fou, tu vas te prendre des canettes de bière dans la figure et tout. J'ai dit non, je le sens vraiment. Et puis bon, j'ai commencé à chanter mon répertoire grand public. Et puis est arrivée une chanson sur la prière et là j'ai senti un silence, alors que juste avant il y avait plein de jeunes, des jeunes sympas qui faisaient du bruit au bar, un silence et tout, et j'ai senti le respect des gens. Et là je me suis dit, mais non, en fait, si tu vas simplement avec ce que tu es et tes chansons sans honte ni triomphalisme, les gens ils te prennent comme ils sont et ça se passe très très bien. Et pour moi c'était vraiment un tournant. Et en plus c'est ce jour-là que j'ai rencontré le guitariste qui jouait dans un autre groupe après, qui me suit depuis 20-25 ans et avec qui j'ai enregistré mon dernier album.
Je vais dire bonjour quand même à Pierre Benoît puisque on l'a récupéré ou on a réussi à le joindre. Pierre Benoît, bonjour.
Bonjour Emmanuel, je suis content de vous rejoindre. Bonjour TOZ.
Bonjour,
bonjour Jean-Baptiste aussi, je crois.
Alors Jean-Baptiste Fontanet ne sera pas avec nous finalement, mais on dira un petit mot peut-être de ce qu'il organise. Vous avez Daniel Piala avec vous.
D'accord, bonjour Daniel.
Bonjour.
Voilà, alors place est faite aux artistes.
C'est d'être avec vous et d'être aussi d'entendre TOZ, que j'admire beaucoup. Voilà, j'ai beaucoup apprécié dans ses albums. J'aime beaucoup son humour, la justesse de son ton. Voilà, bravo.
Alors, on va commencer. On commence avec les artistes. C'est pas plus mal, puisque comme ça, on fait probablement beaucoup plus les choses à l'endroit. On vous donnera un peu plus la parole un peu plus tard, Pierre Benoît. Mais je peux citer votre avant-propos dans votre livre, donc Les chrétiens et les musiques actuelles. Vous dites « Cette réflexion n'existerait pas sans leurs œuvres, sans leur courage, sans leur travail créatif, sans leur générosité. » Vous commencez votre livre, qui est un livre vraiment intéressant et de réflexion sur toutes ces musiques, par dire toute votre admiration et votre encouragement pour tous ces artistes. Alors Daniel Piala, si on fait connaissance un peu avec vous, donc vous vous présentez donc comme auteur, compositeur, interprète. Il faut dire aussi que l'un comme l'autre, vous vivez de votre art, et ce n'est pas rien. Vous êtes aussi un gars du sud de la France, ai-je compris ?
C'est ça.
Que faudrait-il préciser d'autre quant à votre art ou à vos convictions religieuses ?
Disons que tout ça c'est venu progressivement. Quand j'étais jeune, j'ai fait de la musique tout simplement. Même mes parents m'ont poussé un petit peu parce qu'ils voyaient que j'avais certaines capacités. Et puis en fait, la musique et le cheminement spirituel pour moi sont venus vraiment en même temps. C'est-à-dire que j'ai grandi avec une famille qui avait déjà la foi. Et lorsque je faisais de la musique, bon, j'écoutais tous les artistes qu'on peut écouter parce que j'aimais ça. Mais en même temps, j'ai découvert beaucoup d'artistes anglo-saxons chrétiens. Et c'est un peu ça qui a été le déclic chez moi, en fait, en écoutant ces artistes, je vivais des moments extraordinaires. J'essayais de rejouer les mêmes choses au piano, et je me disais, au fond de moi, il y avait quelque chose qui battait. Et je me disais, mais j'ai l'impression que comme un appel, quelque chose à partager aussi la foi. Alors avec mon cheminement, comme je le disais.
Et c'est à dire juste pour préciser que toutes ces musiques, ça fait partie de votre cheminement spirituel. Ça vous a aussi conduit vers Dieu.
Carrément. Oui. Je vivais des moments. Alors c'est même amusant parce que je me revois dans mon salon avec le miroir là, et je passais des musiques et je me mettais à danser comme un fou devant le miroir, comme on peut s'amuser. Et puis au moment de s'amuser, j'avais même des moments profonds, intimes, on va dire, avec Dieu, parce que ces musiques me faisaient vibrer. Et là, au fond de moi, il y avait quelque chose qui battait, qui me disait, mais il y a quelque chose à faire en France aussi, et avec ce que je suis dans mon univers, avec mon entourage. Et comme je le disais, ça a vraiment été un appel pour moi, en écoutant les musiques, quoi, vraiment.
Alors, on peut dire que vous avez donc différentes cordes à votre arc. Vous êtes un habitué aussi de la direction de chorale, ai-je lu.
C'est ça.
Vous êtes lancé, on va dire, petit à petit, comme TOZ, après, dans une carrière en solo. On peut dire un mot aussi du fait que maintenant, vous travaillez ensemble et vous allez publier prochainement un album avant qu'on vous entende. Cet album donc, est à paraître en septembre, à la rentrée prochaine, il s'appelle Double. Voilà, vous passez donc de l'orchestre, on va dire, enfin du travail de chorale, après au solo, et aujourd'hui à ce double album. Comment vous le présenteriez, ce travail en commun, et qui justifie votre présence à tous les deux ce matin?
Ben en fait, c'est l'histoire d'un cheminement. On a donc eu un parcours solo tous les deux, mais on se connaît depuis pas mal d'années, on s'est croisés à pas mal de reprises. Et puis finalement, ce sont des gens qui suivaient un petit peu ce qu'on faisait, qui nous disaient sur les réseaux sociaux ou ailleurs, mais quand est-ce que vous faites quelque chose ensemble? Et puis nous, au fur et à mesure, on s'est dit, mais oui, ça, ce serait vraiment bien. On appréciait l'un l'autre ce qu'on exprimait. Et du coup, on a commencé d'abord par enregistrer des chansons en commun, c'est-à-dire nos chansons, nos compositions solo qu'on a réadaptées en duo. Et puis au départ, on était parti pour faire un album en concert, puis bon, c'était pas vraiment mûr, donc on a rajouté des titres en studio, et finalement c'est pour ça que ça s'appelle Double, puisqu'il y aura un mélange de compositions nouvelles avec cette partie studio et de compositions personnelles qu'on a retravaillées en duo en concert.
Eh bien, on va commencer, on va vous écouter, si ça vous va. Je vous laisse introduire ce que vous allez nous jouer avant qu'on aille plus loin, et puis qu'on en parle, comme on dit.
Ben justement, là, il s'agit d'un titre que Pascal chantait en solo, puisque c'est une composition à lui, mais qu'on a retravaillé en version duo. D'habitude, il l'a chanté à la guitare, et puis là, on a fait un petit arrangement
piano.
Plutôt piano-voix, pour le rendre plus à l'image de notre duo.
Et ça s'appelle ?
Je veux y croire encore.
On vous écoute.
Trop bête pour planquer la cagnotte, trop égoïste pour aimer. J'ai jamais su ouvrir la porte à ceux qui voulaient m'habiter. Trop vite à des voleurs de poules, trop peu à des semeurs de vin. J'ai jamais su ouvrir la porte, j'ai jamais su prendre le temps. Jamais su porter de drapeau, l'insigne d'une bande. Sur le blouson, derrière l'auto, pas de symbole, pas de légende. Jamais su donner de repères, trop peur d'être manipulé. Jamais su ouvrir la barrière, ou alors, j'ai oublié. Ce soir, tu frappes à ma porte.
Tu crois que c'est facile de quitter son renfort, d'abandonner son île? J'ai mis trop de temps à bâtir le bunker, haute sécurité qui me protège pour l'avenir, des relents de fraternité. T'étais où quand ça allait mal? Dans quelle galaxie? Lisais-tu ton journal? Soignais-tu tes brebis? Quand j'ai crié au secours, à m'en briser la voix, tes théories d'amour m'ont fait sourire tout bas. J'ai pris 10 ans par an. Je me sens comme un vieillard. C'est sûr, je perds mon temps à gober tes histoires. J'ai remonté la pente comme on sort de prison. Hey, tu sais ce que ça représente comme remise en question? Mais ce soir, tu frappes à ma porte. Entre, je t'en supplie. J'ai besoin de main forte pour rebâtir ma vie. Je veux y croire encore, je veux y croire. À jamais, j'ai jamais su ouvrir la porte, mais je finirai par y arriver. Je veux y croire encore. Je vais y croire à jamais. J'ai jamais su ouvrir la porte, mais je finirai par y arriver.
Ces artistes du Parvis, c'est donc l'émission de ce matin, et on entendait à l'instant Théo Z et Daniel Piala, pour un extrait de leur prochain album Double, et le titre du morceau était
« Je veux y croire encore ».«
Je veux y croire encore », et nous sommes aussi avec Pierre Benoît, donc, qui est l'auteur d'un ouvrage intitulé « Les chrétiens et la musique actuelle », paru aux éditions des Béatitudes. Alors Pierre Benoît, je le disais dans votre introduction, on sent que votre livre a été écrit aussi en hommage ou en accompagnement de tous ces artistes. Ce que vous avez entendu ce matin, c'était une exclusivité, c'est ça, semble-t-il, vous disiez?
Dans sa prochaine chanson, qui sera une exclusivité.
D'accord. Alors allez-y, Pierre Benoît, dites-nous en fin connaisseur, parlez avec votre cœur, ce que vous avez entendu, ça vous a plu?
Ce que j'ai entendu, bien, moi je suis extrêmement frappé. Enfin, c'est un, comment dirais-je, c'est un type de musique que l'on trouve, c'est-à-dire qui est celle de l'attente en fait. On part du désespoir, c'est un peu l'itinéraire que Pascal Théozède a, dont il a fait état. On part du désespoir au fond, et il y a comme une lumière qui apparaît, et un désir qui apparaît, qui va en creux laisser la place de Dieu. La musique accompagne ça. C'est-à-dire que c'est une musique de lente, donc une musique de l'intériorité aussi. C'est une musique qui est basée sur des harmonies qui sont relativement simples, mais qui marque par du mineur en particulier une espèce d'attente intérieure, de tristesse. Et en même temps, comme c'est joué, comme c'est vivant et que c'est joué avec beaucoup d'ardeur et avec une prosodie, une manière de dire qui est celle de Théo Z, qui est extrêmement claire, qui est extrêmement vive, qui est dite, qui est vivante, ça fait que cette tristesse est vivante et dans cette tristesse, il y a un désir. Alors ça, pour moi, c'est assez typique en fait de beaucoup de choses qu'on entend dans les musiques actuelles. C'est une musique du désir. Alors, une musique qui fait naître le désir, dans laquelle, au bout du compte, Dieu est la réponse.
On va y venir. En tout cas, vous feriez un excellent VRP de TOZ et de Daniel Piala. Et puis, vous avez une belle manière de décrypter ça. Peut-être si on reprend les choses un tout petit peu en amont, en essayant de, comment dire, d'emmener le plus de monde possible dans cette émission. Daniel Piala le disait tout à l'heure. Aujourd'hui, en France, en Europe, toutes ces musiques, on va dire, maintenant, sont bien présentes. Il fut un temps où elles venaient d'outre-Atlantique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu des vagues successives qui sont venues de cette musique? Est-ce remonté à la préhistoire que de parler de tout ça?
Non, c'est pas remonté à la préhistoire. En fait, le fait qu'on utilise, que les chrétiens utilisent des musiques qui sont les musiques présentes dans leur culture pour témoigner de leur foi, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge. En tout cas, on a ça au XVIIe, XVIIIe siècle. Louis-Marie Grignon de Montfort reprenait les chants qui étaient les chants de bars, de restaurants, pour faire annoncer le Christ. Voilà. Et dans le monde catholique, c'était très largement des musiques d'évangélisation. Voilà, parce qu'il y avait une différence très forte, qui existe toujours, qui est d'ailleurs très présente, très prégnante, entre, je dirais, la musique interne à l'Église, la musique liturgique, et la musique qui est en fait la musique tournée vers l'extérieur, qui est une musique d'évangélisation. Et donc, en fait, voilà, ça a toujours existé, cette volonté d'inculturer sa foi dans un témoignage de vie. Mais en faire des musiques vraiment d'évangélisation à un point extrêmement fort, avec notamment cette caractéristique de la pop-louange, c'est-à-dire d'assemblée dans laquelle on fait chanter des gens et on les aide à cheminer dans leur foi, eh bien ça, c'est quelque chose qui est né beaucoup sous les vagues pentecôtistes, évangéliques en particulier, parce que chez eux, les musiques actuelles sont aussi, c'est-à-dire les musiques de notre temps, on pourrait dire, sont aussi des musiques utilisées à l'intérieur même de la pratique liturgique. Donc la séparation est faible.
Alors,
chez eux.
À ce sujet, il y a un passage qui m'a fait sourire dans votre livre, où vous parlez de la musique grégorienne. Vous laissez entendre que le grégorien peut parler de Dieu, soit, mais que dans les musiques donc contemporaines, vous dites, en revanche, elles accueillent le caractère plutôt plus archaïque de l'expérience corporelle. Vous laissez entendre qu'il y a quelque chose de, on va dire, de primaire, je ne sais pas si c'est le bon mot, qui est pleinement assumé de la vie. Vous parlez un autre moment de la transe, en laissant entendre que parfois on se dit qu'il y a trop de place à l'émotion dans ces musiques, mais que c'est une bonne chose. Alors expliquez-nous.
Oui, si vous voulez, les musiques rock en particulier sont des musiques qui sont fondées sur une pulsation et qui sont fondées aussi sur une espèce d'expression pulsionnelle. Mais la pulsion, c'est la vie. Enfin, la pulsion, c'est aussi la vie. C'est pas juste la mort. Freud nous apprend cela. Et donc, être capable, en fait, d'assumer cette pulsion et d'y faire venir, d'y introduire le Christ et de la tourner vers le Christ, c'est quelque chose qui est très bon. Enfin, c'est qui permet au Seigneur de nous habiter, de prendre chair dans notre chair d'une certaine manière. Et c'est cela que je trouve extrêmement positif. Là où, en fait, la musique grégorienne, elle suppose, je l'ai pratiquée moi-même, elle suppose un homme qui est déjà équilibré, qui est déjà en possession de lui-même, pour chanter, en quelque sorte. Il faut qu'il ait déjà, en fond, acquis des vertus pour pouvoir chanter la liturgie. Alors que dans la musique rock, enfin, et dans les musiques actuelles chrétiennes, le Seigneur vient nous rejoindre là où nous en sommes, dans le lieu même de notre pulsion, c'est-à-dire dans le lieu qui est aussi celui de notre cri. Et voilà, dans une musique grégorienne, on ne crie pas, dans une musique rock, on va crier. Le cri est quelque chose d'extrêmement fondamental.
Daniel Pierret, Daniel Pla et TOZ, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment important ce qui est en train d'être dit, parce que c'est parfois ce qu'on reproche en fait aux chrétiens ou aux églises, hein, puisque autour de la table, on est de différentes confessions, même si c'est pas le sujet. On aurait une foi éthérée et qui part pas des tripes. Est-ce que dans le fond, c'est ça aussi l'amour que vous êtes cette musique, TOZ? TOZ, Daniel Piala, allez-y.
En tout cas, j'apprécie effectivement le fait de dire que par notre art, on laisse passer aussi nos émotions. Je crois que c'est très important, dans le sens que souvent, c'est vrai que peut-être dans l'église, et en tant que croyant, je sais pas, on a une certaine pudeur par rapport à ça. Je sais pas exactement si c'est un poids du passé ou une façon d'être, tout simplement. Mais en tout cas, cette notion de cri, de choses profondes, en tout cas, en ce qui me concerne, je me suis rendu compte que c'est justement ce qui rejoignait les gens, parce que c'est ce qu'ils vivent, c'est ce qu'ils ont dans le quotidien. Pour ma part, j'ai écrit une chanson, par exemple, qui s'appelle Ne me mens pas, qui parle du mensonge et c'était pour moi vraiment comme un cri du cœur que j'avais besoin d'exprimer. Et alors c'est vrai que ces chansons peuvent être pleines d'émotions, de sentiments, de choses que l'on vit. La louange à Dieu aussi, on peut l'exprimer de manière différente en fonction de ce que l'on est. Et je crois que notre art, dans notre culture actuelle, a besoin de transmettre des textes, mais aussi ce que l'on vit à l'intérieur avec nos sentiments, quoi.
Théozette, est-ce que c'est pas aussi dans le fond parfois une mauvaise image que les gens ont de Dieu? C'est-à-dire en fait il faudrait avoir une tête de premier de la classe pour y être assez, enfin dire être un peu dans la moraline pour pouvoir rentrer en relation avec Dieu, alors que Dieu attend des hommes et des femmes vrais, tout simplement, non?
Vous voulez dire que j'ai pas une tête de premier de la classe? Attention à ce que vous dites. Hein.
Vous êtes très bien coiffé, en tout cas. Merci. Vous aviez les cheveux longs, maintenant vous avez les cheveux courts.
Oui,
sinon, vous n'aurez pas invité.
Il faudrait envoyer une photo à Pierre Benoît, d'ailleurs, qui disait que j'avais les cheveux très longs dans son livre. Donc voilà, maintenant c'est fini. Non, exactement, il faut faire les choses simplement. Être ce qu'on est et vivre notre foi comme on vit le reste, quoi. Ça fait partie de notre vie et l'exprimer comme on l'exprime.
Ma question plus précise, c'était est-ce que ça parle pas de Dieu aussi, d'être simple et vrai et d'assumer. Nos contemporains ont souvent une image de Dieu en fait qui est très.
Oui.
Très étrange quelque part.
De toute manière, je crois que la vie avec Dieu est une vie simple. Voilà, c'est une relation simple de père à enfant ou d'ami à enfant, d'ami à ami. Et c'est une main qu'on met dans la main d'un autre et avancer ensemble. Il ne faut pas chercher plus loin. Et à partir de là, les choses se font naturellement.
Allez, on ne va pas intellectualiser toute l'émission, mais quand même, je trouve que c'est important. Pierre Benoît, il y a un autre passage dans votre livre que j'ai trouvé vraiment, enfin moi, qui m'a intéressé. J'espère que ça intéressera les auditeurs et nos invités. Et c'est quand vous faites le distinguo entre on va dire, l'époque moderne, post-moderne ou hyper-moderne. Ça peut paraître un peu compliqué, mais vous voyez en fait une manière de rejoindre nos contemporains et puis se dessine derrière aussi, quelque part, la religiosité de nos contemporains derrière. Expliquez-nous un peu ces trois étapes rapidement.
Oui, ça ce serait un petit peu long et assez intellectuel pour le coup de rentrer dans les détails. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut se rendre compte comment aussi l'Église, enfin nous sommes tous marqués par simplement notre culture et sa transformation. Nous sommes dans un monde qui est très marqué par l'individualité, qui est très marqué par le corps, par la sensation, le mirage d'une grande totalité, mais au contraire plein de petites choses toutes simples, comme venait de le dire Théozède. Ça c'est vraiment typique de notre époque, de faire attention à ce qui est le quotidien, ce qui est petit, de se réjouir de peu de choses. Hein. Amélie Poulain, on va mettre la main dans les grains de café, on va sentir l'odeur du café et on va s'y sentir bien.
Vous laissez entendre dans votre livre que donc notre époque, donc vous appelez ça l'époque hypermoderne, en fait, on n'est plus dans la révolte contre la perte de sens, la soif d'absolu, ou parfois dans une critique sociale. Aujourd'hui, vous dites, on est plein pied dans le monde actuel, sans angoisse ni considération globale. Ça veut dire quoi, en fait? C'est-à-dire que, enfin, ce qui est intéressant, c'est que ça parle de nos contemporains. Il n'y a plus d'antichristianisme. Il y a quoi, du coup?
Il y a la volonté d'un bien-être. Il y a la volonté d'un bien-être, d'une sensation qui soit positive et d'une vie relationnelle qui soit réussie, en fait, mais sans projeter trop de choses. Beaucoup de gens ont peu d'ambition, en fait, sur ces choses-là. C'est peut-être un manque, mais c'est aussi quelque chose de fort, c'est-à-dire que on en revient à des choses simples. Et les musiques simples, par là, les musiques actuelles, dans leur simplicité, la mélodie simple qu'on a entendue tout à l'heure, par exemple, est une mélodie qui nous rejoint, une mélodie qui nous touche, et une mélodie dans laquelle, en fait, le Seigneur, comme le dit très bien Pascal, nous prend la main, en fait, tout simplement. C'est ce qu'il vient faire. Il vient nous rejoindre là où on en est, et une musique est une manière aussi de faire ça. Donc c'est pas en ce sens-là un système global qui est à défendre. Voilà, c'est une expérience simple.
Alors, on va vous écouter à nouveau. Théo Z, vous définissez, mais j'imagine que ça vaudrait aussi pour peut-être pour Daniel Piala, en trafiquant de petits riens, de naïveté étrange et de graines d'espoir. Qu'est-ce que vous allez nous interpréter maintenant ?
Ah, alors, on va interpréter tous les deux. Alors, il faut que vous sachiez, Emmanuel et auditeur de Radio Présence, que c'est une avant-première internationale à laquelle vous allez insister.
Ça tombe bien, on est diffusé dans le monde entier. C'est
voilà,
vrai.
Tout à fait.
On a des gens du monde entier qui nous écoutent, en tout cas.
Nous avons répété cette chanson ensemble hier soir pour la première fois. Donc, ça risque d'être peut-être approximatif. Mais bon, quand vous disiez en introduction, cette émission, ça risque d'être le...
Non, ça se dit pas. Non, on ne le dit pas.
Je ne me souviens plus.
Non, mais ça s'appelle... Alors, c'est une chanson qui s'appelle « Les héros de la foi ». Voilà, qui dit que qui que nous soyons, avec grand, petit, gros, plein d'assurance, timide, jaune, blanc, noir, voilà, si on place notre foi en Dieu, ben on peut faire des miracles, des choses extraordinaires. Voilà, les héros du quotidien, les héros de la foi. Les héros de la foi ont pas l'air comme ça. Ils ont deux jambes, deux bras, et à chaque main, cinq doigts. Les héros de la foi sont comme toi et moi. C'est Dieu en eux qui fait des exploits. Ils vont au CP, au lycée ou bosser. Certains parmi eux portent les cheveux blancs. Dans l'adversité, ils gardent les yeux fixés au ciel. Et d'une pierre assomment un géant. Les héros de la foi ont pas l'air comme ça. Ils ont deux jambes, deux bras. Et à chaque main, cinq doigts. Les héros de la foi sont comme toi et moi.
C'est Dieu
en eux qui fait des exploits.
Ils vivent dans une cité, une ferme ou un palais. Certains parmi eux dans un tipi ardent. Face à l'immensité, s'ils peuvent plus avancer d'un geste en deux, ils partagent l'océan. Ils s'appellent Yaël,
Marie,
Pedro,
Suzy,
Melissa,
Vladimir,
Farid, Benjamin,
Louis,
Micheline,
Augustine,
Joséphine,
Lauraline,
Kofi,
Babou,
Septi,
Moussa,
Rachel,
Mika,
Zoé,
Léa,
Marie-Thérèse,
François-Xavier,
Maximilien,
Marie-Renée, Mohamed, Maurice,
Maïlis, Giuseppe,
Tao, Nathan, Lucie, Lisa, les héros de la foi. Ont pas l'air comme ça. Ils ont deux jambes, deux bras. Et à chaque main, cinq doigts. Les héros de la foi sont comme toi et moi. C'est Dieu en eux qui fait des exploits. Les héros de la foi sont comme toi et moi. Ils ont deux jambes, deux bras, et à chaque main, cinq doigts. Les héros de la foi,
hey,
sont comme toi et moi.
C'est Dieu,
en deux,
en
qui
eux.
Fait des exploits.
Présence à Saint-Céré, 95.8.
Emmanuel Pella.
Pour ceux qui se demanderaient où ils sont, on est toujours dans l'émission Vivante Église ce matin. Ces artistes du Parvis nous interprétaient à l'instant les héros de la foi, c'est ça, hein ?
Ouais.
Théo Z et Daniel Piala. Et nous sommes aussi avec Pierre Benoît, qui est auteur d'un ouvrage intitulé Les chrétiens et les musiques actuelles. Allez, Pierre Benoît, puisque à chaque fois vous leur faites l'article et si bien, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste dire que vous avez aimé. Une petite réaction, puisque vous êtes notre seul public.
Voilà, j'ai beaucoup aimé, vous parliez de la postmodernité tout à l'heure. Pour moi, vraiment, le dernier texte du pape François sur la sainteté, il rejoint exactement ça. C'est-à-dire, alors que très souvent, on fait du saint, finalement, une espèce de héros, mais R-O-S, et pas A-U-L-T, ici, le pape François, lui, ce qu'il a voulu faire, c'est montrer que la sainteté, ça se vit dans l'ordinaire. C'est l'homme ordinaire qui peut être saint simplement parce qu'il est habité par le Seigneur au travers de tout ce qu'il vit et qu'il essaie de vivre une conversion. Il peut lui être donné de vivre parfois des choses héroïques, mais avant tout, c'est quelqu'un qui a deux jambes, deux bras, cinq doigts, comme c'est dit. Et voilà, je trouve que et donner simplement des prénoms, des noms, qui peuvent être d'ailleurs des noms de martyrs, on en a entendu, ou de héros au sens R.O.S. aussi, comme le père Pedro, par exemple, dont on a entendu parler du nom dans la liste que vous avez donnée, eh bien c'est montrer, je dirais, cette grande diversité de la sainteté. Voilà,
c'est la sainteté de la porte d'à côté, comme dit le pape François, et en tout cas, on se dit que Dieu peut être présent et peut agir. Alors justement, je m'étais dit, à la fin de cette émission, et alors Pierre Benoît, vous pourrez peut-être les accompagner, les artistes sont probablement comme ceux qui, enfin, j'allais dire parfois, comme les religieux, c'est-à-dire qu'ils donnent dans l'invisible, sans forcément toucher du doigt leur fécondité, mais est-ce que ça vous est arrivé, Daniel Pialat, on va commencer avec vous, de voir concrètement que, en fait, Dieu passait à travers votre art, et d'en voir un fruit? Est-ce qu'il vous revient une rencontre, un visage, quelqu'un qui vous l'a dit une fois?
Oui, alors j'ai eu des retours. C'est vrai que quand on chante, on circule, donc on n'a pas forcément les retours au fur et à mesure lors des concerts. Donc, mais de temps en temps, on a des échos de personnes qui nous disent « Oui, là, on a été touché par ces chansons, donc ça fait du bien, parce qu'on sent vraiment un bon retour dans ce sens-là. » Mais j'ai une autre anecdote que je peux raconter, c'est plutôt en studio, où là on avait pris avec l'équipe qui réalisait mon album le parti de travailler aussi bien avec des croyants que des non-croyants. C'était vraiment un désir de notre part, voilà, tout simplement parce que d'une part c'est la vie, et puis d'autre part on se disait il y a une notion de partage et c'était intéressant. Et donc j'ai enregistré mon album comme cela, et puis donc j'ai des chansons qui parlent de la vie de tous les jours sans parler de Dieu plus que cela, et c'était intéressant de travailler avec eux. J'avais le réalisateur qui était là, qui comprenait pas tout à fait le sens de mes chansons au départ. Par exemple, j'ai une chanson qui s'appelle « Tout me pousse à t'oublier », qui parle de Dieu dans notre monde, etc. Lui, il l'a pris pour une femme en disant « Ouais, mais vas-y, crie un bon coup là, t'as vu ce qu'elle t'a fait, la fille ?» Alors c'était assez drôle, moi je disais trop rien au départ, et volontairement laisser ce cheminement se faire. Et puis à un moment donné, on a une choriste qui a manqué, qui était chrétienne, qui devait être là. Et au dernier moment, on a fait venir une autre chanteuse qui n'avait pas du tout l'habitude des églises, du milieu croyant, etc., qui s'est rajoutée. Et puis on a chanté ce genre de chansons. Puis au fur et à mesure, on est rentré dans des chansons plus profondes, notamment une qui se termine avec des « Merci Seigneur » qui montent, qui sont lourds de sens et profonds. Et là, j'entends la voix qui commence à chevrotter au fur et à mesure qu'elle chante. Et puis elle nous dit « Mais c'est trop fort ». C'est trop fort, j'arrive pas à chanter ça. Et on a ressenti une présence de Dieu dans le studio à ce moment-là. Le gars dont je parlais avait les larmes qui coulaient, et avec cette fille, on a terminé en priant, tout simplement parce qu'il y avait eu ce cheminement avec les chansons. Et pour moi, ça a été quelque chose de tellement fort de me dire oui, je suis sur la bonne voie finalement, de sortir, d'aller avec les autres, de partager, c'est tout simplement ça. Et là, j'ai senti vraiment quelque chose de fort, oui.
Théo Z, est-ce qu'il vous revient aussi une histoire ou...
Oh oui, bien sûr.
Circonstances.
Je vais tout à fait dans le sens de Daniel. Et c'est vrai qu'il y a des chansons qui peut-être marquent plus que d'autres. Je pense à ta chanson, Daniel, sur que tu chantes sur ton papa, qui touche particulièrement les gens. Moi, j'en ai quelques-unes qui frappent généralement pas mal au cœur. C'est une série autour du pardon, autour de la réconciliation. Et je me rappelle notamment d'un concert que j'avais pu donner en Alsace, dans des circonstances que je ne connaissais pas. Et quand je suis revenu chez moi, j'ai reçu un message qui me disait qu'en fait, c'était une assemblée qui était complètement divisée et qui, grâce à ces chansons, avait pu faire une démarche de pardon. Et là, je me suis dit, waouh, Seigneur, t'étais là, quoi. C'était évident, quoi. Mais après, nous, on va de ville en ville.
C'est pas dur, parfois, d'un peu de travailler à l'aveugle, comme ça?
Oh, c'est génial. Non, c'est chouette, c'est l'aventure. Mais
j'entendais l'aventure, c'est ce que vous entendez, c'est l'aventure, c'est d'aller de ville en ville,
oui.
Mais c'est aussi de quelque part de semer sans forcément avoir de retour.
Ça, et c'est, voilà, c'est
ça
là
coûte
où,
ça parfois.
C'est où je voulais en venir. Quoi. Ouais. On sème et on n'a pas forcément le retour. Alors des fois, nos organisateurs nous donnent des témoignages. Je pourrais vous lire des mails si j'avais sous les yeux qui iraient dans ce sens. Mais les trois quarts du temps, on n'est pas au courant de comment les gens ont ressenti les choses. Hormis un retour immédiat, on voit les sourires. Il y a toujours un moment dans le concert qui bascule au démarrage, les gens sont un peu sur la réserve, puis hop, les visages s'ouvrent, et puis à la fin, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, on le voit dans les yeux, mais sinon, après, on ne sait pas ce qu'il y a dans les cœurs.
Pierre Benoît, dans votre livre, il y a un moment, un passage qui aborde une question, c'est celle en fait, des moyens qu'ont tous ces artistes pour vivre et puis pour exercer leur, on va dire, leur talent et leur mission, puisque ici les auditeurs peuvent comprendre ce que ça veut dire sans choquer personne. En fait, vous le tranchez le débat en disant quelque part il faut accepter d'abord il faut que ce soit des bons et des pros, mais faut accepter d'être pauvre. Quelque part cette pauvreté en fait c'est un faux débat, Pierre Benoît, dans le fond. Faut accepter parfois de pas avoir beaucoup de moyens et puis de pas trop savoir parfois à quoi ça sert.
Oui, je pense que c'est ça. C'est-à-dire, c'est moi ce pourquoi je plaide, c'est pour une prise de responsabilité, tout simplement. C'est-à-dire, des personnes veulent témoigner par la musique. Eh bien, voilà, la vie dans la musique est une vie compliquée, pleine de risques, parfois avec de grandes réussites. Voilà, il faut essayer de faire des projets, de convaincre. Ce que beaucoup de gens font, je pense à ce que fait Grégory Turpin aujourd'hui, de ce qu'essaye de faire Jean-Baptiste Fourtanet. Théosé, vous y êtes arrivé à passer à la professionnalisation. C'est ce que j'ai pu comprendre tout à l'heure. Voilà, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de conviction, mais c'est le lot, si j'ose dire, de tous. Alors, il faut pas tant chercher à être aidé que de convaincre que ce que l'on fait a de la valeur, a un sens pour tel et tel objectif. Voilà. Moi, c'est ce pourquoi je plaide. Il m'est arrivé de voir, arrivé un jour à une réunion avec des musiciens, des évêques. Je m'en souviens encore, c'était il y a une dizaine d'années, où les évêques sont arrivés vraiment voulant découvrir assez gentiment les musiques actuelles qu'ils ne connaissaient pas, qui n'étaient pas vraiment dans leur sensibilité. Et ils se sont fait agresser vraiment par des musiciens, par des producteurs, en disant « vous nous aidez pas », etc. « Donnez-nous de l'argent », etc. Et en fait, la réunion a coupé court, parce que c'était vraiment pas le ton, c'était pas juste. C'était vraiment injuste de leur part. Et j'en suis vraiment reparti en me disant... voilà, chacun sa responsabilité aussi, qu'on soit aidé parce qu'il y a des projets. Je pense à ce qui s'est fait par exemple à Lyon Centre, là qui est un projet de pop louange, hein, qui est la musique intégrée aussi à une vie
économique. Avec Glorious, oui.
Voilà, avec Glorious, mais aujourd'hui c'est d'autres groupes, hein. Ce sont d'autres groupes, ça a tourné. Glorious n'a pas gardé cela parce que c'était bon qu'aussi il passe la main à d'autres groupes, qui n'est pas le monopole. Voilà, un projet qui est un projet cohérent. Voilà, pour
en
moi,
tout cas,
ce qui est à faire.
Ce qu'on entend, c'est que on va dire, il faut qu'ils tracent leur route et Dieu sait s'ils ont du courage, mais peut-être aussi c'est pour ça qu'ils touchent autant parce qu'ils connaissent, on va dire, la vie avec tous ces affres. Allez, on va vous écouter une troisième fois, non ? À moins que je vous prenne au dépourvu.
En fait, on n'avait pas prévu ça. Daniel, qu'est-ce que tu as envie de chanter quoi ?
Qu'est-ce qu'on pourrait chanter ?
Ce que vous voulez, ou alors on peut continuer de discuter, il n'y a pas de souci. Hein.
Topinambour ? Ou quelque chose.
Ouais, je sais pas.
Oui. Excusez-nous, vous nous gênez pas, les auditeurs. on est entre nous, on discute.
Allez, ils discutent. pendant que vous discutez.
Posez-nous une question, puis comme ça, si on a l'inspiration.
C'est vrai. Non, non, alors pendant que vous discutez entre vous, donc je vais leur donner 2-3 infos pratiques, puisqu'on finira probablement en musique. Les chrétiens et la musique actuelle, c'est donc votre ouvrage Pierre Benoît, paru aux éditions des Béatitudes. Et puis l'album à paraître de Théo Z et Daniel Piala, c'est donc double sur toutes les plateformes dignes de ce nom, Deezer, Spotify, YouTube, etc. Double, c'est dans les bacs en septembre prochain.
On va partir là-dessus. Alors, oui, c'est une chanson qui ressemble un petit peu dans le rythme à celle qu'on a fait précédemment, donc un rythme un peu de régouille. Ce que j'appelle le régouille, c'est un rythme qui ressemble à un rythme de reggae, mais par quelqu'un qui ne sait pas bien le faire, quoi, par un blanc qui n'a pas de dread. Donc c'est de la régouille. Mais c'est une chanson qui part de l'essentiel.
de l'amour. L'amour qui, en fait, doit être le carburant de tout ce qu'on fait. Parce que, voilà, c'est une adaptation de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 13, qui dit en gros que, voilà, si dans la vie, tu peux faire un tas de belles choses, donner tes biens aux pauvres, apporter des belles paroles, mais si c'est fait sans amour, c'est zéro. Autant planter des topinambours. Je peux parler la langue des anges, si ce n'est pas l'amour, aller à l'office chaque dimanche. Si ce n'est pas l'amour, déplacer les montagnes par la foi, aux pauvres donner mon gloubi-boulga. Si ce n'est pas l'amour qui dicte ça, C'est du vent,
du pipeau,
la cerise sans le gâteau,
yeah.
Un magnificat en carton pâte à Gloria, en chocolat. Si ce n'est pas l'amour, autant planter des topinambours. C'est du vent, du pipeau, zéro.
Chanter la grandeur de Dieu,
alléluia.
Si je n'ai pas l'amour, enseigner les mystères des anges et des cieux.
C'est parlant, moi, ça.
Oui, c'est toi qui chante normalement là.
Partir en mission sur Jupiter, évangéliser les petits hommes verts.
Voilà, c'est bien.
Si ce n'est pas l'amour qui est derrière,
c'est du vent.
C'est du vent, du pipeau.
Yeah.
La cerise sans le gâteau. Un magnifique cat en carton pâte, un Gloria en chocolat. Si ce n'est pas l'amour, autant planter des topinambours. C'est du vent, du pipeau, zéro. Si ce n'est pas l'amour, si ce n'est des topinambours, zéro.
C'est du vent,
du pipeau, la cerise sans le gâteau,
yeah.
Zéro.
Dam.
Un magnifique cat en carton pâte, un Gloria en chocolat, zéro. Si ce n'est pas l'amour, autant planter des topinambours. Zéro.
Yeah.
C'est du vent.
Du pipeau.
Combien, Emmanuel?
Il était perdu.
Si ce n'est pas l'amour, autant planter des topinambours. Zéro.
Voilà. Attention, hein, ça va revenir.
C'est du vent.
Du pipeau.
Combien?
Zéro.
Bravo.
Combien?
Zéro. Combien?
Zéro.
Zéro.
Da 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 da.
Ils sont forts, merci beaucoup d'être venus au micro du Vivante Église. Double, c'est donc en septembre prochain, dans tous les bacs, sur toutes les plateformes. Un grand merci à vous et longue vie à tous ces artistes et à vous en particulier. Merci beaucoup, cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05... 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.